Voilà, tu fais les flèches. Hein, voilà.
Bonjour. Bah, me présenter, c'est pas facile. J'ai pas vraiment de carte de visite. Peut-être par comparaison avec le travail de Gilles, très très scientifique. Le mien est complètement à l'opposé, c'est-à-dire c'est celui d'un paysan, et complètement intuitif, c'est-à-dire j'ai aucune formation qui me permettrait d'argumenter et de détailler, comme tu l'as fait si bien, tous ces processus et ces phénomènes vitaux. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs, avec Caroline, quand Caroline m'a demandé d'intervenir dans cette journée, bah, comme d'habitude, je me suis senti un petit peu léger pour le faire. Et je lui ai proposé de le faire à travers mon cheminement. Donc l'idée, effectivement, c'est de comprendre pourquoi, comment j'en suis arrivé à pratiquer ces méthodes et à m'intéresser à ces méthodes. Parce que ben, je suis fils d'agriculteur, j'ai subi des études agricoles, non agronomiques, c'est des études générales. Jusqu'au BTA, ça va, j'ai pas été trop pollué, mais quand même suffisamment. pour avoir des mauvaises pratiques pendant des années. Et puis en m'installant donc dans les Pyrénées centrales, donc là on a une vision générale un petit peu de la ferme, du lieu, tout en pratiquant des méthodes d'agriculture biologique, puisque c'est vers cela que j'étais intéressé. L'agriculture, étant fils d'agriculteur traditionnel. On ne sait pas quel mot utiliser. Voilà, polyculture, élevage en Charente-Maritime, donc dans un système qui était pas intensif, moins s'en faut. Hein, assez. Mon père était assez écologiste dans l'âme, même si toutes ces pratiques ne correspondaient pas avec ce qu'on met derrière ce mot aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quand même tout à fait le cas. Voilà, donc c'est vrai que j'avais tout ce... J'étais dans cette démarche tout à fait classique, je dirais, au niveau conventionnel. Et à l'époque, pour moi, un sol propre, effectivement, c'était un sol nu. Voilà. Bien que l'une des chances que j'ai eues, c'est que j'avais déjà à 20 ans un passé naturaliste important. Et ce qui m'intéressait dans la ferme, c'était tout ce côté vivant. J'ai passé mon enfance à courir les palisses pour observer, pour me passionner de cette nature de proximité. Donc ce paysage-là, quand on s'est installé il y a 30, c'était en 77, donc 35 ans maintenant, il faut l'imaginer complètement boisé. C'est-à-dire que la moitié des bâtiments étaient inexistants, facilement, peut-être même plus. Et toutes les parcelles qui sont en prairie, où on distingue un petit peu aussi des jardins, c'était la forêt, qui avait recolonisé donc les espaces suite à la déprise agricole juste après-guerre. Donc entre 25, 30, 40 ans de déprise agricole, et on a repris cette ferme donc dans une zone de moyenne montagne, avec une luxuriance tout à fait étonnante, puisqu'on est quand même sur un versant nord de massif montagneux. Donc beaucoup de précipitations, en particulier l'été, au moment où la végétation en a besoin. Et en 20 ans, chez nous, un châtaignier, il peut faire 30, 40, 50 cm de diamètre sans problème. Donc des conditions de croissance importantes qui justifient que ces terrains étaient en friche. J'ai tout défriché avec mes petits bras. J'ai une phobie des engins à moteur, donc j'ai travaillé ma ferme avec la traction animale. J'ai eu très peu d'engins motorisés. Le défrichage, j'ai tout beaucoup de ces terrains-là ont été défrichés à la pioche et à la scie, et j'ai cultivé derrière. Mais en défrichant, je me suis bien évidemment, donc c'est très en pente, hein, je me suis très vite rendu compte que les hautes parcelles, eh ben on était sur la seule mer, sur la roche mer, pardon. Les bas de parcelles, on avait des zones avec des terres beaucoup plus profondes. Donc déjà, une prise de conscience des phénomènes d'érosion beaucoup plus facile à remarquer que dans ma Charente-Maritime natale, où effectivement les terrains étaient relativement plats. Et puis à mesure que j'ai travaillé, tout en donc au début de l'installation, en travaillant ces sols, je suis tombé sur une fertilité extraordinaire et les jardins qu'on a mis en place à l'époque produisaient tout seuls facilement, sans s'embêter. Donc petite ferme de polyculture élevage, j'ai commencé avec 2 hectares, j'en ai transmis 9 à mon fils. Donc vous voyez, c'était vraiment atypique et à l'opposé de ce que j'avais pu connaître. Un petit peu d'élevage, ça veut dire l'accès quand même à des matières organiques animales qui permettaient d'entretenir les jardins et une certaine partie des surfaces de manière à peu près correcte, tout en maintenant une fertilité à peu près correcte, mais pas suffisamment quand même de production animale et donc de fumier pour fertiliser l'ensemble de la propriété. Et je me suis rendu compte au fil des ans que la fertilité de mes terrains, malgré le fait que je fasse de l'agriculture biologique, que j'essaie de travailler du mieux que je peux, la fertilité de mes terrains, elle chutait quand même, elle baissait. Partout où je n'arrivais pas à mettre de fumure animale, elle chutait. Donc des interrogations aussi. Et puis sont arrivés l'épisode BRF, que Gilles a bien connu aussi. Et dans la reconstruction de mon puzzle agronomique, c'est vrai que cet avènement-là a été extrêmement important, parce que c'est vrai que ça a été pour moi l'une des pièces du puzzle manquant dans cette recherche, puisque ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est l'autonomie de l'agroécosystème. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui me motive le plus dans les recherches que je fais. Recherche entre guillemets, dans les essais que je fais à mon niveau sur mes tout petits jardins, d'essayer de comprendre comment je peux maintenir, voire améliorer la fertilité de ces espaces-là sans avoir recours à des apports externes. Voilà. Donc, de fil en aiguille, les réflexions avançant, j'ai mis en place, donc on avait notre jardin, donc le jardin de sortilège, et puis j'ai transmis la ferme à mon fils aussi, ça c'était une étape importante en 2006, et donc en 2006, à partir du moment où Denis récupère la ferme, il récupère le bétail, il récupère aussi le fumier, donc plus du tout d'accès non plus à la matière organique d'origine animale, et là aussi donc un élément important dans la réflexion, comment je vais faire pour continuer à produire sur des jardins sans avoir recours à la matière organique d'origine animale. Parmi les éléments qui poussaient aussi à la réflexion, ces phénomènes d'érosion constatés sur le terrain avaient des répercussions très très nettes au niveau de la production, c'est-à-dire tous les hauts de parcelles, des cultures très 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 maigres, et les bas de parcelles, à l'opposé, des cultures plutôt opulentes. On le voit pas bien, mais pour l'anecdote, donc les terrains sont très en pente, c'est de l'ordre de 25-30% au moins, sur le jardin qu'on voit, je sais pas, oui, y a pas de, sur ce jardin-là, au moins 25-30%. Et, avec l'abandon des terres, des prises agricoles et tout ça, donc ce bâtiment, c'était complètement, enterré, il n'y avait plus rien, et derrière tous les bâtiments, la terre, la bonne terre agricole était descendue derrière les bâtiments. On a été obligé de dégager tout ça pour assainir les bâtiments. Ça donne une idée un petit peu là aussi des phénomènes d'érosion. Et ce que j'aime bien préciser dans ces présentations-là, c'est que bien évidemment, tout ce travail de déstructuration de l'écosystème, il n'a pas été fait avec des tracteurs de 100 chevaux ni tout ça. C'était les anciens, ils travaillaient comme moi avec la paire de vaches. Dans les Pyrénées, on travaillait beaucoup plus dans les terrains en pente, beaucoup plus traction animale bovine qu'avec des chevaux, pour des questions de rapidité du cheval. Pour aller suivre un cheval, je l'ai fait dans des terrains très en pente, c'est très difficile. Il faut avoir un bon peps, quoi. On se fatigue plus vite que le cheval. C'est plus facile de travailler avec des vaches. Voilà. Donc, Mais c'est à peu près en 2006, donc avec les BRF, avec tout ça, que j'ai mis en place deux petits jardins expérimentaux. On voit un petit peu plus proche là, donc cet espace-là, et puis un autre pré-verger là-haut. Deux configurations très différentes, c'est ça qui m'intéressait dans les deux situations, c'est-à-dire que celui qui est plus à droite, là-bas de l'autre côté, je confonds toujours ma droite et ma gauche, c'est un ancien jardin, puisqu'effectivement en bas de pente, des sols très riches, c'est un espace qu'on avait très tôt mis en jardin et qu'on avait transformé après en pré-verger, faute de temps de pouvoir s'occuper de ce jardin, et du coup que j'ai pu remettre en culture. Et puis celui-ci là, à l'opposé, des terrains à gauche, donc très très dégradés, très pauvres, avec un potentiel productif très très faible au départ. Et là-dessus, donc, l'idée de cultiver des légumes et de mettre en culture ces terrains-là sans autres apports que ce que les sols étaient capables de produire par eux-mêmes. J'oublie sans doute beaucoup de choses, mais bon, on y reviendra après derrière. Et par contre, quoi, il faudra me prévenir aussi par rapport à l'heure, parce que je ne sais pas du tout où je vais en être. Donc les premiers essais que j'ai faits, et ce qui est intéressant aussi, ce que j'aime bien souligner, c'est le côté évolutif de la réflexion. Et ce matin, avant de venir, j'ai rapidement parcouru quelques pages du bouquin auquel tu faisais référence, Gilles, du génie du sol vivant. Et déjà en 3-4 ans, je me rends compte que ma réflexion elle a complètement évolué et que je fort heureusement les fondamentaux sont toujours les mêmes. Ça change pas. Mais les techniques, elles évoluent et ce que je faisais en 2006, je ne le fais plus de la même manière et j'arrive chaque jour qui passe à travailler un petit peu différemment et je pense toujours avec de meilleurs résultats et ça c'est quand même quelque chose de ça peut perturber mais moi ça me passionne assez parce que c'est vrai que chaque jour on apprend des choses nouvelles. Donc mon idée c'était la grosse difficulté quand on travaille comme ça sur des sols qui sont végétalisés en permanence végétalisés c'est de comment gérer les couverts végétaux. Donc l'idée ça a été je vais vous faire à travers quelques photos de ce qu'est mon jardin aujourd'hui, comment j'appréhende les choses et comment j'arrive à mettre en culture. Ça c'est le BRF. Donc on a une idée à peu près des terrains. Donc ça c'est des hautes parcelles. Ça donne une idée assez, peut-être pas très précise, mais quand même, hein, c'est quand même des sols très très ingrats, avec très peu de bonnes terres, de terres arables, voire pas du tout au pied du talus. Donc beaucoup d'érosion, beaucoup de dégradation, milieu pas mal forestier. Le BRF qui est recyclé sur place, soit en couverture, tu l'as dit très bien, pour éviter l'envahissement, mais aussi avec cette double fonction, ce que j'appelle moi les mulches nourriciers et les mulches protecteurs, qui sont effectivement très complémentaires. Certains matériaux peuvent jouer les deux rôles, mais jamais simultanément. C'est toujours, y a toujours un décalage et ce sont des choses dont il faut tenir compte aussi. Alors, voilà l'aspect du jardin aujourd'hui. Hein, donc 30-11, vous voyez, les photos ont été prises il n'y a pas très très longtemps. À gauche, c'est un semis de radis que j'ai laissé monter à graines pour récolter un petit peu de semences et qui me sert en même temps d'engrais vert. À droite, des choux-fleurs avec la végétation spontanée qui protège le sol et en même temps nourrit le sol. Moi, dans cette recherche de l'autonomie de l'agroécosystème, C'est-à-dire dans l'idée qu'on n'irait pas chercher à l'extérieur ou le moins possible d'autres éléments, pour moi, les végétaux spontanés sont une ressource complètement indispensable, encore largement méconnue, voire méprisée, et qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisses qui sont complètement injustifiées. Je pense que la principale révolution qu'on a à faire, elle est là. Et je pense que quand on a compris ça et qu'on arrive à jouer avec ça, ce qui n'est pas simple, hein, parce que les phénomènes de concurrence sont bien réels, mais c'est vrai qu'on progresse quand même très très vite et on a des résultats qui sont tout à fait inattendus. Alors moi, n'étant pas professionnel, j'ai quand même la chance d'avoir de travailler sur de toutes petites surfaces. J'imagine très bien que pour des maraîchers professionnels qui travaillent sur même un hectare, déjà c'est sans doute plus complexe. Mais je pense qu'il y a des pistes là très très intéressantes de valorisation justement de ce qui est produit par le terrain, puisque a priori le terrain, quel qu'il soit, même le plus pauvre soit-il, produit toujours suffisamment pour enrichir son sol par rapport aux quelques mois qui ont précédé, à condition de recycler au bon moment et d'intervenir au bon moment pour ne pas gêner le développement des cultures. Donc l'une des premières choses à faire, c'est d'arrêter d'avoir peur d'un sol végétalisé, ça c'est très très clair. Et la deuxième chose à faire, c'est de gérer cette végétalisation de manière à ne pas contrarier le développement des cultures. Alors c'est très instinctif, quand les végétaux spontanés créent des problèmes de concurrence, eh bien on l'apprécie, on vous savez, comme un éleveur, il est très très proche de ses animaux, hein. Nous on voit un troupeau de brebis, de 300 brebis, on est incapable de faire la différence entre deux brebis. Le berger, lui, il les connaît toutes individuellement. Dans notre rapport au jardin, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai que les gens qui sont pas initiés à ce type d'approche vont être de suite paniqués par un jardin très végétalisé, alors que ça n'est pas du tout le cas. Et on sent très très vite à quel moment les cultures souffrent de phénomènes de concurrence et à quel moment il faut intervenir. Jusqu'à présent, j'ai rarement eu de problèmes et d'échecs de ce côté-là. J'ai pu avoir des petits décalages où j'ai pu intervenir un petit peu trop tard. Je pense en particulier cet été, là, un exemple récent sur des poireaux où j'ai laissé, pour des raisons d'absence, trop longtemps les poireaux enherbés. C'est souvent les phénomènes de concurrence sont bien évidemment beaucoup plus importants en début de culture qu'en fin de culture. Ça, c'est une évidence, hein. Et donc effectivement là j'ai eu des poireaux qui ont un petit peu végété, mais dès que j'ai repris la chose, les cultures ont repris quand même le retard. Alors à titre d'exemple, derrière cette culture de radis là qui m'ont servi de à la fois de porte-graines, donc sur lesquelles j'ai récolté des semences, mais aussi d'engrais verts, j'ai haché. Donc moi, mon outil principal aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est la houe. C'est-à-dire la gestion à la fois des engrais verts cultivés ou des engrais verts spontanés, c'est-à-dire les végétaux spontanés. C'est un hachage sur place des végétaux. Comme l'a expliqué Gilles, l'idée, c'est de laisser au maximum. Le travail à éviter, c'est l'arrachage des plantes. C'est laisser tous les systèmes racinaires en place le plus possible. Par rapport à ce que je faisais, par exemple, en 2006, je continuais d'arracher les végétaux et d'en faire des tas, de faire du compostage sur place, mais en arrachant les végétaux. Aujourd'hui, que j'ai compris que c'était une erreur, je hache sur place et les végétaux se décomposent avec le système racinaire en place. Je n'arrache plus une herbe en mettant les racines à nu et en la posant en la déplaçant ne serait-ce que de quelques centimètres. Je laisse tout sur place. Avec cette technique-là, en généralisant ça, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure sur le. Je sais pas si. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je répète, hein, la pente sur ce rang de choux, elle est comme ça, hein. On voit donc chou-fleur, il commence tout juste à paumer. Entre le chou-fleur en bas de parcelle et celui en haut de parcelle, il y a très très peu de différence. Avant d'utiliser ces techniques-là, donc si j'avais utilisé la grelinette, la bêche ou les vaches pour labourer, pour cultiver derrière, en haut j'avais des choux maigrichons, en bas j'avais des choux qui étaient hyper développés. Au bas de ce terrain, j'ai un petit talus, un petit rebord. Avec un travail normal du sol, y compris avec de faibles moyens mécaniques, hein, manuels ou traction animale, aujourd'hui, ce bas de parcelle serait complètement recouvert de terre qui provient du haut de la parcelle. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, j'arrive à reconstituer, en 6 ans, j'ai reconstitué des couches conséquentes de sol en haut des parcelles. Donc, vous voyez, ça va quand même relativement vite et c'est relativement encourageant. Et je le précise, sans aucune fumure animale. Et les seuls végétaux que j'apporte extérieurs à ce jardin, c'est soit un petit peu de BRF, donc que je prends au-dessus sur les bordures. Soit un petit peu de feuilles, par exemple les cultures de pommes de terre auxquelles tu faisais référence, il faut des paillages épais pour remplacer le butage. Effectivement, là, je récupère de la feuille de hêtre ou de châtaignier dans les chemins alentour de la ferme, en ne touchant pas au sol forestier. Je récupère vraiment de la feuille qui est perdue entre guillemets parce que rassemblée par le vent, par la pluie dans les vieux chemins et qui pourrit là normalement. Parce que là, l'une des grosses interrogations qu'on se pose, c'est quand même, ça serait quand même bien d'éviter, même pour des raisons vertueuses et intéressantes et écologiques, d'aller déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire aller prendre de la matière organique dans des écosystèmes forestiers, par exemple, qui ont besoin de la matière organique, pour la mettre dans nos systèmes agricoles, tôt ou tard, ça peut poser des problèmes. Donc, en travaillant sur l'autonomie de l'agroécosystème, j'essaie de répondre à ces questions-là, à ces interrogations-là. Et ça fonctionne bien. Donc, on voit en bas, là, le résultat du hachage. Un autre exemple au-dessus. Donc, ça, c'est le sol entre les poireaux. C'est les poireaux dont je vous parlais tout à l'heure, là, hein, qui ont un peu souffert en début de culture. Là, ils sont en train de rattraper le retard sans problème. Donc, j'ai haché. Et puis, derrière, je vais faire pois, fèves et seigle. Donc, quelques cultures en place. Je vais aller assez vite parce que je pense que j'ai dû épuiser mon temps. Donc le terrain, donc ça c'était hier, hein, hier à 15h. Je précise, on est à peu près tous lotis à la même enseigne en ce moment, les pluies qui sont quand même vachement importantes. C'est vrai que mon sol est relativement bien drainé, la pente y aide. Mais pour autant, si je travaillais le sol de manière classique, ne serait-ce qu'à la grelinette, impossible d'aller faire des semis avec la forte pluviométrie actuelle. Or, hier à midi, j'avais encore des gouttes qui tombaient du ciel. Et à 15h, bon, c'est vrai que j'ai un peu... Je savais que, voilà, aujourd'hui, je venais, je me vois, mais j'y suis allé. Je vous assure que ça s'est très, très bien passé. J'ai pas surtassé mon sol et j'ai pas fait de bêtises. J'ai pu semer les fèves comme on le voit sur la photo. Pour les semis, alors plus le semis est fin, bien sûr, plus on a besoin d'un lit de semences relativement fin. On peut le faire de manière très localisée quand on fait des rangées de carottes ou des choses comme ça, hein, avec un apport de compost, par exemple, sur le sillon. L'une des grosses angoisses effectivement des jardiniers, c'est de se dire mais comment je vais semer dans des sols qui sont hyper végétalisés où tous les systèmes racinaires sont en place. C'est-à-dire, je vous disais la différence entre ce que je faisais en 2006 par exemple sur les parcelles que j'ai reprises, j'ai enlevé toutes les racines d'ortie, de suroyeb, de fougère parce que voilà, ça m'angoissait de me dire mais je vais jamais arriver à produire sur ce type avec ces configurations là. Aujourd'hui, je laisse tous ces systèmes racinaires en place et je remets en culture des terrains en friche entre guillemets avec des systèmes racinaires d'ortie tout à fait spectaculaires et ça ne gêne pas du tout. À partir du moment où on l'accepte, ça nous gêne nous, mais ça ne gêne en aucun cas la culture. Ça peut nous gêner nous au niveau intellectuel, mais jamais la culture. Et en 2006, j'utilisais énormément le croc, justement, pour griffer, pour enlever les racines et tout ça. Et aujourd'hui, je l'utilise quasiment plus, sauf, voilà, pour des semis. J'aurais fait des repiquages de choux, de poireaux, tout ça. Je ne touchais pas la parcelle du haut. Je plantais directement là-dessus, tel que. Et ça se passe très, très bien. Donc, on a la chance, donc, avec Annie-Jeanne, de travailler. Elle travaille jardin de sortilège. Donc, c'est des jardins qui sont visités par le public, donc, avec d'autres contraintes. Et puis, toujours, l'idée qu'on veut se faire du jardin. Et puis, l'idée aussi de ne pas vouloir trop choquer les visiteurs du jardin. On peut comparer nos deux choses. Annie-Jeanne adopte petit à petit. Elle pourrait en témoigner si elle le veut. Je ne suis pas sûr, mais bon. On va pas l'embêter. Mais voilà, c'est mes jardins avec moins d'une heure de travail par semaine. Des fois, cette année, c'était peut-être une heure de travail par mois. J'ai des résultats qui rendent jaloux beaucoup de jardiniers conventionnels avec des. J'ai retrouvé des tailles de choux avec ces méthodes-là, des choux verts de 2 kilos, 2,5 kg, qui étaient les choux qu'on produisait lors de notre installation sur des terrains qui s'étaient reposés depuis 30 à 35 ans. Donc vous voyez, en 5-6 ans, on arrive à recréer, à inverser complètement les choses et à avoir de belles productions. En voilà quelques-unes. Le chou rave, on ne se rend pas trop compte, mais ça fait. Les choux, on a toujours eu beaucoup de mal parce qu'on est plein sud, sur des sols très drainés, souvent beaucoup de difficultés quand même pour avoir des choux. Depuis qu'on systématise ces techniques-là, on arrive à nouveau à avoir des choux qui sont très, très jolis. Et le chou rave, il fait la grosseur de ma tête, là. Donc, voilà. Alors, j'ai jamais fait une analyse de sol. Je vais faire bondir mes amis. Mais voilà. L'idée, c'est de faire confiance à la nature. Et l'idée dans la valorisation des herbes spontanées, c'est de se dire qu'effectivement, la nature, elle a une capacité à corriger les erreurs. Soit du milieu lui-même, parce que ça arrive parfois, hein. Soit les erreurs que l'on a fait nous en intervenant sur nos parcelles, elles sont beaucoup plus fréquentes et abondantes. Ça, ce sont une prise de conscience, par exemple, je l'ai eu en travaillant sur d'autres domaines, plus artisanaux, mais en feuilletant un bouquin. Je n'ai plus le titre en tête, mais d'un monsieur qui s'appelait Gustave Heuzé sur les ressources végétales et toutes les industries qui étaient liées à la ressource végétale. Donc, au 19e siècle déjà, ce monsieur relatait une expérience, l'analyse de bruyère, et ils avaient constaté que la cendre de bruyère contenait beaucoup de calcium. Or, vous savez que la bruyère est censé pousser sur des terres dites de bruyère, oui, complètement exemptes de calcium. Et l'une des principales choses qu'on fait en agronomie lorsqu'on travaille ces sols-là, c'est de ramener du calcium. En biodynamie, on parle de transmutation. Je pense qu'on est tout à fait face à ce type de phénomène. C'est-à-dire que les plantes spontanées, et il y a eu d'autres études de fait depuis, qui démontrent que, effectivement, les plantes spontanées qui poussent dans un milieu ont tendance à concentrer les éléments minéraux qui font défaut au sol. Donc, si on arrête d'avoir l'angoisse des plantes spontanées et qu'on valorise ce potentiel, qu'on le favorise même, hein, plutôt que de le contrecarrer comme on fait systématiquement, y compris en schéma d'agriculture biologique, eh bien, je pense que on fera des progrès tout à fait spectaculaires et on peut se permettre de cultiver avec très très peu d'apport extérieur, quel qu'il soit. Une heure de travail par semaine. Ouais, je vous assure que cette année, j'y suis pas du tout, hein, pour plein de raisons. Puis c'est fini. Voilà, merci. Suis désolé du caractère un peu décousu de mon intervention, mais j'étais pas vraiment en état pour préparer quelque chose de plus. C'était parfait. Oh, merci, vous êtes trop adorable.
Il nous reste une dizaine de minutes pour des questions. Donc, François.
Vis-à-vis des adventices,
la
que vous
question.
essayez de développer, Au niveau de, d'après ce que j'ai compris, donc de temps en temps, vous les calmez avec un petit chemin. Au niveau du nombre d'interventions, du rythme, du stade de développement des plantes.
Alors, les herbes spontanées, les risques d'envahissement et la gestion, hein, comment gérer ça? Ben je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est très instinctif. Il y a pas de recette. Je pense que ça fait partie aussi des messages qu'il faut faire passer, qu'il est important de faire passer. Il y a des fondamentaux qui sont extrêmement importants à connaître. Et puis après, il y a l'application sur le terrain. Et chacun d'entre nous, on est dans des configurations différentes. Toi, tu es en Normandie, moi, je suis dans les Pyrénées. On va avoir des choses qui vont se passer un petit peu différemment. Et c'est là où effectivement c'est important d'être à l'écoute de son terrain comme un berger est à l'écoute de son troupeau, et c'est là où c'est important d'être vraiment attentif à ce qui se passe. Voilà, j'ai pas une recette précise, je sais que par la simple observation, moi je me rends compte quand j'ai aussi l'habitude, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Je sais comment croît un légume, je sais sa vitesse de croissance, j'ai des repères qui sont des repères culturels, il faut pas le nier, c'est sûr, quelqu'un qui voudrait faire du jardin pour la première fois, choisir ce type de méthode-là, ça serait peut-être pas simple, mais ces repères-là me suffisent, moi, pour comprendre quand je vois que la culture se développe pas normalement, donc à ce moment-là, j'interviens. Il arrive parfois que mes sols aient l'apparence de sol nu. Quand on voit la culture de fèves que j'ai fait hier, ça, c'est une apparence de sol nu. Mais je peux vous assurer que ce n'est qu'une apparence. Tout le système racinaire étant en place, il n'y a pas de phénomène d'érosion, puisque je le répète, malgré la pente importante, malgré les périodes régulières, ou même quand le sol a digéré toute cette matière organique, il y a des moments où effectivement le sol est relativement nu. Pour autant, le sol est très bien structuré et très stable. Donc je hache. Hein. Aujourd'hui, quand je dis que la houe c'est mon principal outil, je hache. Je hache avec la houe, donc selon l'écartement entre les cultures, je vais utiliser un outil plus ou moins. Donc j'aiguise mes houes régulièrement, ça c'est extrêmement important. C'est des choses qu'on a oubliées, mais c'est des gestes que faisaient les anciens. Les outils, ils s'entretiennent, ils s'aiguisent, donc une houe, on l'aiguise pour hacher sur place. Avant, ma houe, je m'en servais pour couper, donc désherber au sens propre du terme, donc couper les racines et voilà, les plantes restaient sur place, mais je les coupais. Aujourd'hui, je les hache sur place. L'idée, c'est de mixer cette matière organique verte, hein, très riche en chlorophylle, la mixer avec les couches superficielles du sol. C'est le principe un petit peu en grande culture des rolofacas. Hein, j'ai fait faire un prototype, je l'ai dans la voiture, on le descendra tout à l'heure pour le montrer. J'ai fait faire un prototype à main. Malheureusement, ça fonctionne pas. Les essais que j'ai fait, malheureusement, ça fonctionne pas parce que l'outil, en plus avec la pente, vous avez vu, pour déjà, bon, j'ai plus 20 ans. Mais bon, j'y arrive encore, mais voilà. Mais il y a un problème de vitesse de rotation et je pense de le tracteur avec la force hydraulique du 3 points fait que un rolofaca derrière un tracteur, moi je l'ai vu fonctionner dans des vignes en Alsace sur des terrains en pente aussi. Le résultat est tout à fait spectaculaire. C'est un résultat comparable à ce que je fais moi avec ma houe. Ce que je fais avec mon rolofaca à main dans mon jardin, ça couche l'herbe. Alors bien sûr, il y a des stades d'intervention qui sont extrêmement importants, hein. C'est comme tout, hein. Il y a toujours une technicité associée à chaque outil. Le BRF, on est bien placé pour savoir que c'est l'un des matériaux qui a sans doute été le plus mal utilisé et qui souffre le plus de mauvaise réputation à cause de mauvaise utilisation. Donc voilà, tout ça, il faut l'apprendre, le découvrir au fur et à mesure. Mais bon, voilà, le rolofaca, je pense l'avoir utilisé au bon moment, au bon stade de l'herbe, et pour autant, ça couche. Ça n'a pas un effet suffisant. Donc au jour d'aujourd'hui, le meilleur outil que j'ai trouvé, c'est effectivement la houe. Et je partage tout à fait cette idée que le gros du travail à faire dans les années qui viennent, c'est un travail sur l'outillage. Ça, c'est une évidence.
Mes questions sont, quelle surface vous travaillez? Et deuxièmement, quelles sont vos plantes spontanées et comment vous les gérez?
Alors, quelles sont les plantes spontanées? Et la première question, la surface. Deux jardins à peu près de 10 sur 10, bien qu'ils ne soient pas carrés, quoi, mais en gros, c'est à peu près ça, quoi. Les plantes spontanées, elles sont très diverses et bien sûr il y a une évolution des végétaux spontanés. Sur le jardin le plus en pente, celui qui était à gauche, quand je l'ai repris en plein mois de juillet, je l'ai fauché à la fosse, c'était des 2,50 m, 3 m de suroyeb, d'ortie, de ronces, de trucs comme ça que j'ai laisser sur place pour faire une couverture végétale pour justement faire un mulch qui était un mulch nettoyant. Aujourd'hui, sur ce jardin, j'ai beaucoup de renoncules qui sont apparus, qui se sont développés, mais j'ai toujours les autres plantes qui se développent. Les orties sont en bas de parcelle. On voit bien là où il y a quand même, même si le sol a une certaine stabilité, il y a quand même des phénomènes naturels avec des taux d'azote plus importants en bas de parcelle qu'en haute parcelle. Qu'est-ce que j'ai comme autres végétaux spontanés? Il y a un petit peu de tout. Après, j'ai semé aussi donc des choses que j'ai semées qui spontanément maintenant se développent comme la bourrache. La bourrache, c'est un légume mi-sauvage, on va dire, extrêmement précieux, et je suis sûr que c'est l'une des plantes sur lesquelles il faudrait travailler en engrais vert, parce que c'est tout à fait donc Boraginacée, même famille que la consoude, et je pense que c'est des plantes intéressantes sur lesquelles il faudrait s'intéresser, parce qu'au niveau potentiel nutritif, en maraîchage, je pense que c'est une plante intéressante. Après, j'ai pas. Oui, alors si, dans l'autre jardin, par contre, là, qui était l'ancien ancien jardin qu'on avait transformé en pré-verger, là, j'ai vraiment un contexte favorable au niveau du sol lui-même, mais très défavorable au niveau des adventices, puisque j'ai de l'armoise, avec armoise et ortie, avec un système racinaire très dense, en surface, superficielle, qui m'avait paru très, très angoissant au départ, et qui s'avère pas plus gênant que ça. Alors c'est vrai qu'il y a des cycles différents, les végétaux spontanés ne se développent pas de la même manière, mais pour autant la végétalisation des sols, elle est relativement homogène. Donc j'ai le travail de préparation du sol pour la mise en place de la culture, ça il est systématique. Je profite dans les jours qui suivent. Là, on n'a pas eu le temps de le voir. Il faut le voir sur le terrain. Mais en 2-3 jours, mon hachage, ça suffit pour avoir un terrain propre derrière et pour mettre en culture aussitôt. À cette saison-ci, les premières photos que j'ai faites dans les premiers hachages que j'ai faits, où j'ai fait les fèves hier, j'avais haché il y a une dizaine de jours, 10-15 jours, pas plus. Donc vous voyez, et hier j'étais très très surpris parce que je pensais ne plus trouver de faune sur le sol. On a quand même eu des coups de froid comme partout. Et ben il y avait encore des petits mille-pattes en surface, il y avait encore des choses comme ça. Donc la vie du sol est tellement intense que la dégradation et le recyclage des végétaux spontanés se fait très très vite et laisse un sol très très vite apte à recevoir les cultures.
Vous avez parlé de feuilles de hêtre et de châtaignier. De quelle manière vous les utilisez?
Alors moi, c'est il y a un seul usage pour les feuilles, c'est sur les cultures de pommes de terre. Donc aujourd'hui, je ne fais plus de pommes de terre enfouies avec butage et tout ça. J'avais arrêté les pommes de terre de manière classique pour une simple et bonne raison, c'est que les rats aux pieds, c'est important d'en parler, je vais juste vous prendre 2 minutes de plus. Les rats aux pieds, en butage normal, conventionnel, avec de la terre bien fatigant, bien déstructurant, bien tout ça, les rats aux pieds me bouffaient toutes les pommes de terre. Il partait au début du rang c'était tellement décevant que j'avais arrêté les cultures de pommes de terre. Et en refaisant comme ça des cultures sur le sol, sans enfouissement, donc là je compense la butte par une butte de feuilles. J'ai à nouveau de très bons résultats, et même quand les rats aux pieds trouvent les pommes de terre et arrivent à manger, à glaner quelques patates, ils ne me détruisent pas les pieds comme ils le faisaient avant, parce que les racines et les tubercules ne sont pas aussi intimement associés qu'après des butages classiques, et donc ils peuvent très bien manger un tubercule sans remettre en cause la survie du pied de pomme de terre, alors qu'avant je voyais mes tiges de pommes de terre disparaître. La seule difficulté que j'ai en plus, que je n'avais pas avant, je l'avais mais de manière beaucoup plus modérée, c'est les dégradations des oiseaux qui viennent gratter de manière superficielle. J'ai pas plus de limaces, j'en ai, mais j'en ai pas plus. Les rats aux pieds, écoutez, cette année, alors curieusement, Annie-Jeanne, à 100 mètres de moi, elle a des soucis cet automne là de rats aux pieds importants. Moi, on a vu mes poireaux, j'ai pas de soucis. J'ai pourtant des râteaux-pieds, hein, ils y sont, il n'y a pas de problème. Mais ils ont à manger, comme les limaces, elles ont à manger. Le sol étant toujours végétalisé, les dégâts, par exemple, sur des semis de carottes qui, sur sol nu, travaillaient même à la grelinette, même de manière la plus biologique soit-il, mais avec travail nu du sol, et ben voilà, le moindre semis de carottes dans les Pyrénées, avec les printemps qu'on a, si on mettait pas de protection, on avait du mal à récolter une seule carotte. Aujourd'hui, j'ai très très peu de... Donc on fait des récoltes régulières, on fait des choses comme ça. Et donc le seul problème que j'ai en plus, c'est les grattages d'oiseaux que je n'avais pas avant. C'est-à-dire il y a tellement de faune, c'est tellement appétant pour les oiseaux des alentours, on est au milieu des bois, on reste toujours au milieu des bois, que là, je suis obligé de protéger les semis par des branchages, parce qu'autrement, effectivement, les oiseaux peuvent me gratter complètement et réduire à néant le semis. C'est le seul problème que j'ai en plus que j'avais pas avant. Donc tous ces terrains-là, zéro arrosage. Alors dans les Pyrénées, ça peut paraître un petit peu, ouais. Mais il y a 2-3 ans, par exemple, on s'est pris un mois complet de sécheresse tout le mois d'août, zéro arrosage. Je fais mes repiquages en pleine chaleur, quelle que soit la température, quel que soit le contexte. Je fais quand même attention, hein, mais bon. Mais en pleine chaleur, zéro arrosage. Parce que c'est tellement difficile monter les seaux d'eau et tout ça, c'est pas possible. Donc zéro arrosage. J'ai vraiment mis les conditions les plus difficiles qui soient pour que je sois pas tenté de. Hein. Alors bien sûr, je veux pas dire qu'il ne faut pas arroser les légumes, c'est ridicule. Bien sûr que si vous pouvez arroser, faites-le. Moi, mon idée, c'est quand même d'aller au bout de la démarche, d'aller le plus loin possible dans cette notion d'autonomie. Mais bien évidemment, si on peut arroser au moment du repiquage de choux ou de salade, c'est bien évidemment important de le faire. Toujours est-il que moi, je le fais, je repique sans ça et ça marche bien.